la science CQFD, Natacha Triou.
La mission Voyager a commencé il y a 50 ans et les deux sondes poursuivent leur long voyage à 23,3 milliards de kilomètres de la Terre. Mais jusqu'où ira ce programme ? Lancé à 15 jours d'intervalle durant l'été 1977, d'abord Voyager 2, puis Voyager 1, les sondes de la taille d'une coccinelle Volkswagen explorent à présent l'espace interstellaire, au-delà du système solaire. C'est le périple le plus long et le plus lointain de l'histoire, et ce n'est pas fini. Le projet a dépassé toutes les attentes. 85 000 images, 24 lunes découvertes, on revient sur la genèse et sur l'avenir d'une mission hors norme. Voyager, Voyager, et jamais ne revient. Bonjour Jean-Luc Berthaud.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, directeur de recherche émérite au CNRS, au laboratoire Atmosphère, Milieu, Observation Spatiale, le LATMOS. Bonjour Philippe Hénarijos.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. En complément d'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur notre fil @sciencecqfd, où vous retrouverez toutes les sources citées durant cette discussion. Alors jusqu'à 17h, nous parlerons donc de cette odyssée de l'espace, hein, surprise après surprise, de découverte en découverte. On remonte dans le temps, le samedi 20 août 1977, Voyager 2 vient d'être lancé et on allume sa télévision à tube cathodique.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. On l'a échappé belle à la NASA. La plus fabuleuse aventure technique a failli tourner court. Voyager 2, la sonde automatique atomique qui va explorer pendant 10 ans les planètes du système solaire, a eu une défaillance. On a redouté hier soir que Voyager 2 ne devienne qu'une simple lettre aux extraterrestres et que lors de son voyage dans notre système solaire, la sonde Voyager soit incapable de nous transmettre la moindre photo et la moindre information. Mais finalement, ce matin, à la NASA, on respire. Le bras supportant la quasi-totalité des instruments scientifiques s'est déployé, contrairement à ce que l'on avait redouté. Michel Chevalet.
Oui, si vous voulez, toutes les choses se sont bien arrangées. Alors la mission a débuté bien sûr par le lancement. L'engin va quitter la Lune, doubler Mars et franchir ce que vous voyez en ce moment, la ceinture d'astéroïdes qui sont des espèces de résidus du système solaire, puis arriver en direction, survoler Jupiter. Jupiter, duquel prendra des photos et surtout s'intéressera aux satellites de Jupiter, à 4 satellites galiléens. La sonde contournera Jupiter, puis partira en direction de Saturne. Mais auparavant, on prendra des photos de Io, le satellite de Jupiter, et on voit depuis Io un lever de soleil sur Jupiter, un spectacle qui doit être vraiment exceptionnel.
Jean-Luc Berthaud, une réaction à cette archive?
Oui, oui, c'est un peu émouvant, effectivement. Moi, j'étais là au moment du lancement. Et on peut peut-être parler de la naissance de ce programme Voyager qui est né un peu dans la difficulté, d'ailleurs. Alors, parce qu'il y avait le fameux Jet Propulsion Laboratory, qui est un laboratoire de la NASA, mais est très orienté vers l'ingénierie et les roulements. Et en fait, il a une particularité, c'est qu'il est opéré par Caltech, c'est-à-dire par une université. C'était donc, NASA finance Caltech qui finance Jet Propulsion. Dans les années 60, les ingénieurs se sont aperçus qu'il allait y avoir ce qu'on appelle une CZJ, c'est-à-dire un alignement spécial de planètes qui permettait de faire, par ricochet gravitationnel, de passer d'abord de Jupiter à Saturne et puis ensuite d'être envoyé sur Uranus. Uranus et Neptune. Et donc, ils avaient élaboré un programme qui s'appelait les Grands Tours. Ils devaient faire les 4 planètes, mais le budget était très élevé. Et à la fin de 72, Fletcher, l'administrateur, a décidé, je mets pas ça dans mon budget, c'est trop cher, parce que Nixon lui avait dit, tu choisis, vous choisissez ceci ou cela. Donc, bon, alors les ingénieurs de GPL ont redéfini le programme, ils ont pris une autre sonde qui s'appelait Mariner, hein, et qu'ils ont beaucoup trafiqué pour devenir les marinaires Jupiter-Saturne. Et ça devenait 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher, parce que d'ailleurs aussi, c'était pris en charge par le Jet Propulsion Laboratory.
Mais à l'origine, hein, au tout début du projet, hein, quels étaient les objectifs initiaux du projet du Grand Tour?
C'était évidemment d'aller explorer les planètes externes du système solaire, parce qu'on avait fait déjà pas mal de missions marinaires, enfin certaines missions vers Vénus, avec les Russes surtout, et vers Mars, les Américains. Et là, bon, ben, il fallait regarder un peu les autres planètes du système solaire.
Philippe Hénarejos, hein, on l'a entendu hein, dans l'archive également, hein, sans doute c'est une mission qui vise l'exploration spatiale, mais on entend aussi dans l'archive un Voyager a failli être une simple lettre aux extraterrestres, parce qu'aussi Voyager 1 et 2, c'est aussi une bouteille à la mer.
Oui, oui, c'est ça, c'est que Voyager a à son bord une chose un peu spéciale qui est un disque, vous savez, un 33 tours, qui est en or. Et qui a été gravé avec des messages de l'humanité à une éventuelle forme de vie extraterrestre, parce que après avoir fait le tour de ces quatre planètes, eh bien Voyager allait continuer sa course. Il s'agissait pas de se satelliser autour de ces planètes, mais de continuer et donc de quitter le système solaire pour aller errer dans la galaxie, alors pour des dizaines et des centaines de milliers d'années, en fait pour toujours. Et donc, sous l'influence d'un astronome américain qui était un grand vulgarisateur de la science et de l'astronomie, qui s'appelait Carl Sagan, on a profité de la plateforme qui était issue des sondes pionnières pour insérer dessus un disque avec sa pochette et avec des messages. Alors les messages, c'est des extraits de musique, c'est gravé aussi des photos. En fait, tous ceux qui, dans la vision qu'on avait dans les années 70, pouvaient représenter l'ensemble de la planète Terre avec, évidemment, vous en doutez, un encombrement limité, parce que c'était pas encore les disquettes, c'était encore au moins des clés USB. Donc c'était très très limité, mais il y a un bonjour dans toutes les langues, il y a un message, je crois, du président des États-Unis à l'époque qui s'appelait Jimmy Carter, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a des extraits de musique classique, du rock, des choses comme ça.
Et je voudrais noter qu'il y a aussi un poème de Baudelaire, parce qu'il y a des petits extraits de littérature mondiale, et le fameux poème de Baudelaire qui s'appelle « Élévation ». Que je vous réciterai si vous voulez.
Des poèmes, de la musique, tout ça embarqué à bord. Alors Jean-Loup Berton, vous avez notamment participé à l'élaboration du spectromètre UV des sondes. Quelles sont les caractéristiques techniques et les instruments qui sont embarqués à bord, hein, plus précisément?
Oh là, je ne vais peut-être pas passer tout en Russie. À la suite, mais pour ce qui est de la spectroscopie ultraviolette, en fait, avec Jacques Blamont, qui était mon directeur de thèse, on avait proposé un spectromètre ultraviolet, mais dédié à l'étude de l'arrêt Lyman-alpha. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'arrêt la plus importante de l'atome d'hydrogène. C'est un peu l'équivalent de la lumière orange du sodium pour l'hydrogène. C'est dans l'ultraviolet lointain, donc de Terre, on ne peut pas l'observer. Alors, Lyman, L-Y-M-A-N, peut-être que les familiers, ceux qui écoutent la radio en ce moment ou qui regardent la télé, ils s'aperçoivent qu'il y a un village en Ukraine qui a été pris et repris par les Ukrainiens. Eh bien, sans doute que M. Lyman, qui est un Américain, il vient d'Ukraine. Donc, tout ça pour dire que Blamont et moi, on était spécialistes du Lyman alpha, parce qu'il y a un phénomène qu'on avait découvert, le vent interstellaire, c'est-à-dire il y a un flot permanent d'atomes d'hydrogène qui balaye le système solaire et qui, tous les atomes d'hydrogène sont éclairés par le soleil dans cette fameuse lumière Lyman alpha. Donc tous les atomes d'hydrogène dans le système solaire deviennent des sources lumineuses. Donc on avait effectivement trouvé qu'il y avait un flot d'hydrogène à 20 km par seconde qui arrivait d'une certaine direction. Il se trouve que la sonde Voyager 1 est à peu près allée dans cette direction, vers l'avant.
Sur les autres instruments, Philippe Hénarejos.
Alors, comme toute sonde consacrée à l'exploration planétaire, il y a évidemment une caméra, en fait, un appareil photo, pour voir la surface de ces planètes. Il faut savoir qu'à l'époque, Jupiter, Saturne, et encore plus Uranus et Neptune, c'était des points surexposés dans les livres d'astronomie qu'on consultait. Jupiter et Saturne, il y avait des photos argentiques avec un grain énorme. Et il y avait quand même eu deux sondes, Pionier 10 et Pionier 11, qui les avaient survolées, mais de loin, avec une résolution qui est moins bonne que ce que font aujourd'hui les amateurs depuis la Terre. Donc on voulait voir ça. Donc il y avait une caméra, il y avait un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique des planètes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des détecteurs de particules chargées, des choses comme ça.
Il y avait un fameux spectro-infrarouge qui était en fait pour sonder les atmosphères des planètes géantes. Il y avait aussi un appareil qui mesurait le plasma local, puis d'autres appareils appareil qui mesurait les rayons cosmiques, c'est-à-dire ce sont des particules chargées et qui sont très énergétiques et qui en fait sont un peu empêchées de rentrer dans le système solaire par le champ magnétique solaire. Parce qu'un des gros objets d'étude aussi, là, on le verra plus tard, c'est ce qu'on appelle l'héliosphère. Puis il y avait des sondes qui regardaient l'état des ondes électromagnétiques, plasma wave. Voilà, c'est puis.
Et il y avait quelque chose qui n'était pas embarqué, qui étaient les expériences de radioscience dont on se sert toujours, parce que quand on arrive, ces instruments qu'on vient de décrire sont en gros les premiers qu'on envoie systématiquement quand on va voir un nouveau monde pour la première fois. Et la radioscience, c'est quoi? Mais c'est que la sonde communique par onde radio avec la Terre, et en mesurant les variations ou les dérives du temps que mettent ces signaux à arriver de la sonde, on mesure le champ gravitationnel des astres qu'on survole, et éventuellement les différences de champ gravitationnel selon que vous passez près ou pas, et vous pouvez ainsi commencer à peser les astres que vous voyez. Donc, voilà.
On peut faire aussi quelque chose de très intéressant avec le radio science dont il parle, là justement, c'est aussi quand on passe derrière, par exemple vers Titan, et on est passé derrière, et les ondes radio ont traversé l'atmosphère de Titan, et en regardant la fréquence qui change, on peut en déduire le profil de densité atmosphérique de Titan. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait une atmosphère qui était beaucoup d'hydrogène, du méthane, et mais aussi de l'azote, et qui avait été prévu par Don Hunton, parce que c'était vraiment, il avait fait un raisonnement très subtil. Et donc cette radio science, c'est très intéressant. D'ailleurs, maintenant, c'est utilisé systématiquement, pratiquement sur toutes les sondes qui vont aller visiter des planètes. Il y a un paquet qui s'appelle Radio Science.
Oui, les sondes de Voyager, elles pesaient 720 kilos, sans le carburant. Donc c'est pas énorme. Ils avaient une antenne de 3,60 m.
Oui, c'est ça, pour communiquer, avec la Terre pour du voyage chez lointain.
Pour les planètes, bon, Neptune c'est à 4,5 milliards de kilomètres de la Terre, ça va encore. On pourra reparler des communications aujourd'hui parce que Voyager 1 est beaucoup plus loin que Neptune. Mais en tout cas, il y avait aussi plein d'astuces imaginées par les scientifiques avec ces instruments, ces quelques instruments, et aussi sans les instruments, justement avec la télémétrie, les choses comme ça, pour ensemble avoir un maximum avec un simple survol. Si vous voulez, Voyager, c'était comme une voiture sur l'autoroute, et vous êtes à bord, vous descendez la vitre et vous prenez une photo d'un château qui serait sur le bord de l'autoroute. Et avec ça, il va falloir avoir des données pour les décennies qui suivent. Et bien, c'est exactement le pari qui avait été fait et qui a été réussi.
Alors, par rapport à tous ces instruments à bord, hein, il y a aussi les ordinateurs de bord, ce qui est d'assez drôle avec nos yeux contemporains. Il n'y a pas de microprocesseur parce que ça n'existait pas. Donc, rétrospectivement, ce sont des vaisseaux qui sont très très simples.
Oui, ils sont simples. Mais enfin, quand même, ils ont pris le meilleur de ce qui existait sur le marché à ce moment-là. Et il y a quand même un ordinateur de bord. Et il est reprogrammable. Et ça a été absolument essentiel dans la mission. C'est-à-dire, je crois que c'était la première fois qu'on a lancé parce que finalement, on peut avoir une idée nouvelle pour faire opérer les instruments ou opérer le satellite lui-même et changer le programme. On charge le programme. Maintenant, c'est classique, tout le monde le fait. Mais à cette époque-là, c'était très, très, très extraordinaire. Je crois me souvenir que le processeur de bord prend ça, je crois qu'il a 200 kilooctets, quoi, quelque chose qui est absolument ridicule par rapport à un téléphone portable qui doit avoir des gigaoctets, c'est-à-dire presque un million de fois plus.
Alors on l'a dit, hein, ces sondes bénéficient de la méthode de l'assistance gravitationnelle. En gros, c'est balancé grâce au champ gravitationnel d'une planète. Alors ça permet de faire des économies d'énergie de carburant. Mais tout de même, comment ça fonctionne? À quoi fonctionne? Comment marche Voyager 1 et 2, Jean-Louberto?
Ils se propulsent pas, sur leur lancée. Et alors, l'assistance gravitationnelle, c'est simplement, par exemple, il y a Jupiter qui tourne autour du Soleil. Hein? Et si vous, avec la sonde Voyager, vous arrivez un peu derrière Jupiter. Alors, vous arrivez derrière Jupiter et finalement, il va vous renvoyer dans une autre direction, mais vous allez lui impulser la vitesse de Jupiter sur son orbite, en plus. Et donc, ça, c'est une espèce de coup de pied aux fesses là, qu'on prend à chaque fois qu'on passe sur une planète. Mais donc, pour aller vers l'extérieur, il faut passer juste un petit peu derrière. Et voilà, comme ceci, on est allé à la fois de Jupiter à Saturne, puis de Saturne à Neptune et à Uranus et Neptune. Alors là, il y a une petite différence d'ailleurs, parce que évidemment, pour se profiter de cela, il faut vraiment passer à un endroit très précis par rapport à la planète. Mais donc, c'était incompatible, par exemple, quand on arrivait avec Saturne et qu'on voulait visiter Titan, qui était le plus gros satellite, qui est toujours le plus gros satellite de Saturne, on pouvait pas à la fois visiter Titan de très près et rebondir sur une autre planète. Donc c'est Voyager 2 qui a été dédié à l'étude de Titan, très rapproché, et après ça, il est parti, il a plus regardé les autres planètes. Il est parti dans une certaine direction. Par contre, Voyager 1, il est passé près d'Uranus de façon à aller observer plus tard Uranus et Neptune.
Alors au moment du lancement, le samedi 20 août 1977, est-ce qu'à cette époque, on a conscience, Jean-Loup Berthaud, que c'est le grand projet scientifique du XXe siècle?
J'ai tendance à dire que oui, parce que en fait vraiment c'était le seul projet d'ailleurs vers les grandes planètes à ce moment-là. Il y avait eu Pionier 10 et 11, mais c'était petit, hein. Et c'était le seul projet américain. Et les Russes ne pouvaient pas s'attaquer aux missions de longue durée parce que leur technologie n'était pas suffisante, leur matériel n'était pas assez fiable pour résister sur de très longues durées. Donc c'était vraiment un peu l'apanage des Américains et on savait que c'était unique, quoi.
Start.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
h 16 sur France Culture avec Jean-Loup Berthaud et Philippe Hénarejos. Nous parlons de la mission Voyager. Nous venons de parler de la genèse du projet. Alors 13 jours après son lancement, le 18 septembre 1977, Voyager 1 capture sa première photographie. Pour la première fois, on observe simultanément notre planète et la Lune. C'est une image assez émouvante, ça, Philippe Hénarejos.
Ah oui, il faut prendre du recul pour avoir à la fois dans le même champ la Terre et la Lune, et à l'époque, il n'y avait pas quand même beaucoup de missions qui étaient parties vers les planètes. Et Voyager 1 et 2 ont été les premières à pouvoir faire ça. Alors depuis, c'est devenu presque une photo touristique traditionnelle des missions spatiales. La sonde Galileo l'a fait, toutes les sondes qui sont parties vers Mars aussi, avec une résolution bien meilleure. Mais cette fois-là, c'était la première. Pour la première fois, on voyait le couple Terre-Lune réuni dans un seul cliché. Et c'était le premier d'une, j'allais pas dire une série parce que ça, il y avait que deux clichés, mais le premier d'un duo de photos prises par Voyager dont on allait reparler puisque plus tard, au-delà de Neptune,
la fameuse photo de famille, voilà, mais n'allons pas trop vite.
Voilà, 1990, on s'est encore retourné, on a regardé vers le, on a fait retourner la sonde Voyager vers la Terre, vers le Soleil, pour prendre un portrait de famille de tout l'ensemble des planètes du système solaire avec le Soleil, et parmi elles, il y a un petit point qui fait un pixel et qui est la Terre.
Toute petite planète. Alors voilà, donc Voyager 1 fait cette première photo, elle dépasse Mars, elle s'apprête à traverser la ceinture d'astéroïdes. Jean-Loup Berthaud, à l'époque, il y avait un débat pour savoir si les vaisseaux spatiaux pouvaient traverser cette ceinture sans être mis en pièces.
Alors j'avoue que là, moi, j'ai pas été très inquiet. Je ne me rappelle pas d'avoir été inquiet, non, parce que... Et bon, la ceinture d'astéroïdes, non, on connaît, il y a beaucoup d'astéroïdes si vous voulez, hein, mais l'espace est tellement grand que finalement c'est pas très difficile de passer au travers.
Il y a donc, des millions de kilomètres entre les astéroïdes, alors oui, je me rappelle que dans la presse, ça en parlait un peu, mais c'était dans la presse, je pense. Faut voir que bon, les sondes pionnières avaient déjà traversé sans aucun problème, donc le chemin était tracé, mais c'était pas beaucoup de temps auparavant, c'était en 1973, et donc il y avait une petite montée d'adrénaline dans les journaux, mais effectivement on savait quand même déjà à l'époque qu'il n'y avait pas de risque majeur à traverser cette zone du système solaire.
Voilà, une traversée moins dangereuse que prévu. Le 5 mars 1979, Voyager 1 fait son premier survol planétaire, elle survole Jupiter. Pendant ses 35 heures de survol, hein, à L2, les sondes prennent 33 000 photographies du monde jovien. Que nous permettent d'apprendre ces images?
Alors, beaucoup de choses sur, par exemple, la haute atmosphère de Jupiter, le système de nuages, la vitesse de ces nuages, mais aussi beaucoup de choses sur les satellites. Et peut-être le clou de la rencontre, ça a été quelque chose qu'on n'a pas compris dès le départ, c'était les volcans sur Io. Ça, c'était vraiment extraordinaire.
C'est la découverte majeure. Il existe des volcans ailleurs que sur notre planète.
Exactement. Mais alors, ça a été très amusant, la façon dont ça s'est fait. Parce que j'aurais pu les découvrir moi-même, si j'avais été un peu plus malin, je veux dire. D'une part, parce qu'il y avait, avec l'instrument UVS, là, il y avait notre PI. Alors, il y avait d'abord un article théorique qui avait dit, trois semaines avant le survol, attention, il pourrait bien y avoir des volcans sur Io. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un effet de marée gravitationnelle. Ça veut simplement dire, si vous voulez, que, il y a un point le plus proche de Jupiter, il est attiré plus que le point le plus loin. Et donc, ça fait une tension dans le satellite Io. Ça fait une tension. Cette tension qui est variable parce que l'orbite est un peu excentrique. Donc ces mouvements-là, ça doit chauffer l'intérieur. Et si ça chauffe, ça peut faire des volcans. Quelqu'un avait prédit ça 3 semaines avant. Et je me rappelle que Broadfoot, le responsable de UVS, nous a réunis et dit « Ah, moi, je vois, avec le Lima Alpha, je vois un truc bizarre. Donc c'est peut-être bien la preuve qu'il y a vraiment des volcans sur Io. » Alors, est-ce qu'on va l'annoncer à la conférence de presse? Parce qu'il y avait des conférences de presse tous les jours. Et bon, alors, l'équipe a dit, oh, c'est pas clair. Non, on ne dit rien. Et on a bien fait, d'ailleurs, parce que les arguments n'étaient pas bons. Et par contre, il y avait quelque chose qui était facile. Moi, je me rappelle, à 3h du matin, dans les couloirs de JPL, je vois l'image de Io. On aurait dit une orange attaquée avec un pic à glace. Parce qu'il y avait des points noirs qui étaient distribués comme ça. Alors, je comprenais rien, mais j'avais compris quelque chose que c'était pas dû à, disons, à des cratères d'astéroïdes. Mais bon, j'avais. Et puis, en fait, personne n'a vraiment compris ce que c'était pendant, je rappelle, environ au moins 2 semaines ou 3 semaines. Et c'est une jeune étudiante, qui, en repassant tous les clichés qui avaient été récupérés au cours de la sonde, mais en utilisant des systèmes d'analyse d'images un peu sophistiqués dans lesquels on augmente le contraste, elle s'est aperçue qu'il y avait un volcan. Il y avait un panache de fumée au-dessus du limbe de Io qui montait à, je sais pas, 150 km à peu près. Et alors, on l'avait raté dans les premières visions parce que on prenait des photos, puis on les imprimait, puis on regardait. Et bien là, ça a été vraiment une très grande découverte et très, très importante, je pense.
Oui, c'est qu'on a une lune à peine plus grande que la nôtre, mais qui est 10 fois, il y a 10 fois plus d'activité volcanique que sur notre propre planète.
Il y avait ces fameuses taches noires, c'était des lacs de lave. Ça, faut bien. C'était extraordinaire, ça.
Philippe Hénarejos, pardon, je suis en train de boire. Philippe Hénarejos, on voit que dès le début de la mission, hein, c'est des données qui changent notre compréhension des lunes.
Ben oui, forcément, on n'est jamais arrivé là. On voit, par exemple, Europe, qui est une autre des lunes galiléennes de Jupiter, on la voit comme une boule de billard, sans aucun relief, mais avec des espèces de stries dessus qu'on ne comprend pas vraiment. On comprend que c'est complètement glacé. On voit Ganymède, qui a l'air, qui est la plus grosse des lunes, qui fait à peu près 5000 km de diamètre, qui se retrouve avec des parties comme si on les avait ratissées, comme si un tracteur avait élaboré, alors que d'autres parties sont cratérisées. On voit Callisto, qui est constellé de cratères, qui a pourtant la même taille que Ganymède, mais qui ne lui ressemble pas du tout. Et puis évidemment, on fait plein de découvertes, parce que c'est la première fois qu'on sort à la proue du navire et qu'on regarde une planète comme ça de près. On voit la dynamique de ce qu'on appelle la grande tache rouge sur Jupiter, là, dans les nuages de Jupiter, qui est une formation d'anticyclone. En fait, ça ressemble à un cyclone. C'est un tourbillon qui fait à l'époque 2 fois la taille de la Terre en diamètre. Et à mesure que Voyager s'approche et prend des photos, on fait un film avec ces photos et on la voit bouger, cette tache rouge. Donc les climatologues en apprennent beaucoup. On devine, une fois qu'on a traversé et qu'on est passé de l'autre côté de Jupiter, qu'on est côté nuit, on détecte la présence d'éclairs, d'orages dans l'atmosphère nocturne de Jupiter. On voit aussi les anneaux de Jupiter, qui jusque-là, je ne sais même pas s'ils avaient...
Ils n'avaient pas été vus.
On découvre les anneaux autour de Jupiter. C'est un anneau qui est très ténu, qui n'a rien à voir avec les anneaux de Saturne, sinon on l'aurait vu avant. Mais on découvre que cette planète géante a des anneaux, et ça ne sera pas la première fois, parce qu'on va réitérer ça autour d'Uranus, autour de Neptune, un peu plus tard, avec la même sonde. Donc, on découvre un monde dont on ignore tous. C'est le monde des planètes gazeuses et géantes, parce que Jupiter, c'est 11 fois le diamètre de la Terre, c'est 300 fois sa masse. Ça n'a rien à voir avec Vénus ou Mars, qui quelque part nous ressemblent. On peut se poser sur Vénus ou sur Mars, on a des difficultés parce que c'est des mondes hostiles, mais on peut y aller. Il y a des cailloux, il y a des volcans, il y a des cratères. Là, ce sont des mondes gazeux. On parle à l'époque dans les livres d'astronomie d'étoiles ratées, que si la masse avait été plus grosse, Jupiter aurait été une étoile. Et ça rejoint des thématiques actuelles où on se demande quelle est la limite entre les planètes et les étoiles, et où on introduit d'ailleurs pas simplement la notion de masse pour déterminer ça, mais aussi la notion de processus de formation. Est-ce que les plus petites étoiles se sont formées comme des Jupiters, ou est-ce que les plus grosses planètes se sont formées comme des étoiles qui auraient été avortées? Donc on ouvre ces nouvelles questions, on répond à certaines questions, on découvre des choses et ça multiplie le nombre de questions qu'on va se poser finalement. Et
les voyageurs ont également permis de découvrir 3 nouveaux satellites autour de Jupiter. On continue cette odyssée le 12 novembre 1980. Seulement 20 mois après Jupiter, Voyager 1 survole la planète aux anneaux. Saturne passe à 64 000 km au-dessus de ses nuages. Et parmi les résultats scientifiques marquants de ce survol de Saturne, il y a ceux qui concernent Titan, la principale lune de Saturne. Et bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et Titan, qui est observé par Voyager 1 et 2, c'est le sujet du reportage du jour.
Oui, on connaissait peu de choses sur Titan avant ses survols par Voyager 1 et 2. Et à partir de ces premières images, l'une des plus belles pages de l'exploration de notre système solaire s'est ouverte, avec des missions aussi emblématiques que la mission Cassini-Huygens. Athéna Koustenis est planétologue, directrice de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris. Elle a réalisé sa thèse dans les années 1990 sur les données du programme Voyager et elle a été l'une des principales investigatrices du programme Cassini-Huygens. Elle nous explique en quoi les missions Voyager ont été le socle de tous ces travaux particulièrement riches d'informations.
Alors Titan, c'était un objet qui attirait beaucoup l'attention des scientifiques, même avant les missions Voyager, de par le fait que les données qu'on pouvait obtenir du sol et par les premières missions comme Pioneer et autres, nous montraient que Titan avait une atmosphère. Et ça, pour un satellite, c'était assez exceptionnel. Donc du coup, les scientifiques s'étaient mis à émettre des hypothèses et des modèles qui allaient du simple au double, je dirais. C'est-à-dire qu'il y en avait qui pensaient que l'atmosphère était constituée, par exemple, uniquement d'azote ou essentiellement de méthane, selon les modèles, et que la pression au sol pouvait varier entre une pression atmosphérique comme celle qu'on a sur Terre ou alors une pression atmosphérique beaucoup plus faible. Et tous ces modèles trouvaient vraiment dans les données existantes à l'époque moyen de se convaincre c'était ça qui était correct ou pas. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en ce qui concerne Titan, au début du XXe siècle, il y avait eu des observations. Ces observations qui avaient montré que pour la première fois, il y avait effectivement une atmosphère autour de Titan à cause du fait d'un assombrissement de bord, comme on l'appelle, était mis en doute par d'autres scientifiques. C'est toujours comme ça. Donc en fait, on ne savait pas grand-chose sur ce satellite en dehors du fait qu'il fallait vraiment aller tout près pour essayer de mieux comprendre.
Vous, dans le cadre de vos travaux de thèse, vous vous êtes penché sur le cas de Titan grâce aux données Voyager. Quelles étaient vos interrogations à l'époque et quel travail vous avez conduit ?
Ce qui est marrant, c'est que moi, je suis arrivée sur les données Voyageurs de Titan 10 ans après les faits. C'est-à-dire que le survol avait lieu en 1980. Moi, je commence ma thèse dans les années 90. Et là, on me propose, Daniel Gauthier, qui était un des co-investigateurs dans la mission, me propose de regarder quelques spectres de Titan qui, à l'époque, étaient 300. Et c'est tout ce qu'on avait à l'époque, quand on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on a des milliers. Et il m'a dit, est-ce que tu veux regarder d'un peu plus près, faire de la spectroscopie dessus pour voir si on peut comprendre un petit peu mieux l'atmosphère et aller un petit peu au-delà des molécules mères. C'est-à-dire, maintenant, on sait, grâce à Voyager, qu'il y a de l'azote et du méthane aussi, mais que le méthane est minoritaire. Est-ce qu'on peut trouver un petit peu plus, on peut aller un petit peu plus en avant, surtout sur la chimie organique. Donc, moi, j'ai pris les 300 spectres de l'instrument infrarouge à bord de Voyager et j'ai fait une thèse qui, d'ailleurs, pour moi, continue à jour d'aujourd'hui parce que toutes ces années après, je continue à travailler sur Titan avec la mission Cassini maintenant. Mais Voyager, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas pu démarrer la mission Cassini.
Alors, justement, vous, vous avez largement contribué à cette mission Cassini-Huygens. Expliquez-nous en quoi ont consisté ces missions et quelles sont les parentés entre ces missions et Voyager.
Moi, grâce aux données Voyager, enfin, j'étais pratiquement la seule personne à avoir fait une thèse uniquement sur Titan à l'époque, quand on a démarré la mission Cassini-Huygens. Donc, je me suis trouvée en pole position et j'ai eu la chance de contribuer d'abord à la définition et ensuite, les instruments sur lesquels j'avais travaillé ont été sélectionnés pour monter à bord de la mission Cassini et sur la sonde Huygens. Et donc ces instruments-là, c'était un héritage de l'instrument infrarouge sur le vaisseau spatial et sur la sonde aussi, l'instrument infrarouge, aussi l'instrument qui mesurait la pression et la température. Et puis évidemment aussi à ce moment-là, je me suis intéressée aussi à la surface de Titan parce qu'on arrivait à ce moment-là à la voir. Et donc, je suis partie sur un multi-aspect de ce satellite avec la mission Cassini-Huygens qui, dans les années à venir, va pouvoir effectivement continuer, je dirais, dans un sens avec la mission Dragonfly, qui est la mission sélectionnée par la NASA, dans laquelle on a aussi beaucoup de contributions françaises, et qui, elle, là, va aller plus que la mission Huygens, non pas atterrir à un seul endroit sur le sol de Titan, mais aller à différents endroits grâce aux drones, le petit hélicoptère drone qu'on a mis en place, qui va aller d'un endroit à l'autre pour essayer de nous donner plus d'informations sur des sites différents, sur la chimie organique. Toujours cette chimie organique, on part de Voyager, on arrive jusqu'à Dragonfly. 30-40 ans plus tard, on sera toujours là à étudier cette chimie organique sur Titan.
La mission Voyager, elle est très emblématique dans l'histoire de l'exploration de notre système solaire. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi symbolique, finalement, d'une certaine façon, de la conquête de l'espace et de l'observation et de la compréhension de l'espace?
J'en parle toujours dans mes conférences des missions voyageurs parce que c'est effectivement emblématique. C'est effectivement des missions qui ont conduit à beaucoup d'aspirations. Hein. Ça a nourri des générations de planétologues. La preuve, j'en suis. Et puis aussi mes étudiants. Parce que c'est de la technologie des années 60. Ça a été lancé dans les années 70, mais c'était de la technologie des années 60. Et ça a réussi tellement bien qu'au jour d'aujourd'hui, quand on fait des missions spatiales, on se dit « mais si on pouvait avoir la réussite qu'ont eu les missions Voyager ?» Et c'est franchement ces deux robots, parce que j'ai travaillé aussi bien sur Voyager 1 que sur Voyager 2, et ces deux robots qui sont par exemple passés à côté de Titan à 9 mois d'intervalle ont réussi à nous donner des informations spécifiques, précises et importantes sur des variations par exemple qu'on trouve dans l'atmosphère de Titan avec ces deux vaisseaux qui ont survécu alors qu'au jour d'aujourd'hui on parle d'obsolescence parce qu'au bout d'un certain temps tout s'arrête. Les missions Voyager, c'est je pense au film Star Trek où il y a Voyager dedans qu'on découvre des années après. Bah, quand j'ai vu ce film, je me suis dit c'est tout à fait ça. Un jour, mes arrière-arrière-arrière-petits-enfants vont trouver le vaisseau spatial Voyager dans une autre galaxie quand ils auront voyagé d'ici là.
Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre de Jean-Loup Berthaud.
Oui, je me rappelle qu'on parlait effectivement du grand succès de Voyager et de son côté symbolique peut-être. Je me rappelle que mon directeur de thèse, Jacques Blamont, avait écrit un petit article dans Le Monde, en première page, qui s'appelait, à propos des sondes Voyager, il avait appelé ça « Le triomphe de l'intelligence ». Et vraiment, c'est effectivement une définition, parce que finalement, avec pas beaucoup d'argent, mais avec beaucoup d'intelligence distribuée parmi les gens de JPL, mais toute la communauté scientifique, ils étaient arrivés à faire quelque chose de merveilleux et qui a marqué, je crois, l'exploration planétaire. Alors, il faut reconnaître aussi que c'est un peu une mission unique. Alors maintenant, après, ça y a eu Cassini, mais...
Philippe Hénarijous.
Alors, je veux juste revenir sur Titan, puisque Athéna Kosténis en parlait, elle a consacré sa vie à l'étudier. Au moment où Voyager 1 est envoyé survoler Titan, on ne sait pas grand-chose. Et quand Voyager 1 photographie Titan, c'est quand même visuellement une déception terrible. Parce que Titan est recouverte d'une épaisse atmosphère, c'est la même pression atmosphérique que sur Terre, à peu de choses près, et qui est orangée, et on ne voit absolument rien. On ne voit même pas de structure dans les nuages à ce moment-là. Et donc, il y a eu, sur le grand public, un impact relativement décevant, parce que tout ce qu'on voit de ce monde qu'on approche, c'est rien, en fait. Et alors, évidemment, les mesures scientifiques, elles, apprennent beaucoup de choses, notamment sur les molécules organiques qui s'y trouvent, puisque Titan, c'est un monde à moins 180 degrés, ça fait à peu près 5000 km de diamètre. C'est comme Ganymède, dont on parlait tout à l'heure, et Mercure, à peu près, c'est à ce calibre-là. C'est une surface glacée, donc moins 180 degrés. L'eau qui s'y trouve, en fait, c'est l'équivalent des roches chez nous, c'est tellement dur. Et il y a quand même des... On suspecte à l'époque, après les données voyageurs, qu'il y a des choses qui sont liquides, des hydrocarbures, des pluies, des aérosols, des choses comme ça, qu'il y a toute une chimie du congélateur qui se déroule sur Titan et qu'il va falloir retourner étudier. Et c'est en partie, enfin en grande partie, grâce aux données voyageurs, qui étaient quand même très intéressantes et très intrigantes, qu'a été montée ensuite la mission Cassini avec un module spécial pour rentrer dans cette atmosphère de Titan et aller jusqu'à la surface, module qui a été construit par l'Agence spatiale européenne, qui est descendu au bout d'un parachute et qui a quand même, rappelons-le, envoyé la photo de la surface la plus lointaine jamais explorée. La surface de Titan où on voit des galets. Alors les galets, ce sont des morceaux de glace et puis toute une espèce de boue gelée d'hydrocarbures. Et on apprend beaucoup de choses avec la mission Cassini plus tard, où on voit à travers les nuages, parce qu'on a conçu cette fois les instruments pour voir à travers les nuages. Ce sont des radars, ce sont des caméras à vision infrarouge, mais qu'on n'avait pas sur Voyager, puisque forcément on ne savait pas, on découvrait, on arrivait.
On va continuer de faire de la chimie du congélateur, on continue le voyage, mais après avoir tendu l'oreille à la musique embarquée à bord des sondes, sur ce vieux 33 tours en métal pour résister au temps, on y trouve 1h30 de musique. Si les extraterrestres ont des oreilles et s'ils apprécient la musique, ils pourront écouter ça. Cascabel de Lorenzo Barcellata and the Mariachi de la playlist des sons Voyageurs. À 16h38 sur France Culture, nous parlons de cette mission hors norme avec Jean Louberto, planétologue, directeur de recherche émérite au CNRS, au Latmos, et avec Philippe Hénarejos, journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Alors nous venons de survoler Jupiter, Saturne, cible suivante, la méconnue planète Uranus. Philippe Hénarejos, un Voyager 2 devient la première sonde de l'histoire à survoler la géante bleue.
Et oui, et là encore, je vous parlais de Titan, une boule orange immaculée. On arrive sur Uranus, et les premières photos, c'est une boule bleue immaculée. On voit absolument rien d'autre que ça. Alors, il va y avoir des découvertes, évidemment, mais on aime bien. On a été alléché quand même. On a vu Jupiter avec les tourbillons, les tempêtes, des vents incroyables. On a vu Saturne avec les anneaux dont on n'a pas parlé, mais on les a vus pour la première fois de près. On les a multipliés. On a vu qu'il y en a, depuis la Terre, on en voyait 4. Là, on en voit des milliers. On connaît la taille des particules, etc., etc. Et puis, on arrive sur Uranus. C'est tout bleu, c'est uniforme. Regardez les photos d'Uranus. De toute façon, il n'y en a pas d'autres qui ont été mises à jour puisqu'il n'y a pas d'autres sondes qui est allée sur Uranus depuis Voyager 2. Donc, les meilleures photos actuelles d'Uranus, c'est celles de Voyager 2. Et on voit aussi des choses extraordinaires sur les satellites d'Uranus. Par exemple, on voit la surface de Miranda, qui est un satellite tourmenté, qui a sans doute été cassé par peut-être les forces de marée ou par une collision, qui s'est réagrégé. Il est tout petit et il a des falaises de 9 km de haut qui pointent vers Uranus.
Des falaises de glace.
On voit aussi les anneaux d'Uranus qui avaient été découverts auparavant, depuis la Terre, en 1978, je crois, par des méthodes d'occultation d'étoiles. Mais cette fois, on peut les voir de près, on peut avoir des informations sur eux. Bref, on fait à nouveau des découvertes formidables avec une sonde. Là, on est en quelle année? En 1989, non? Ou, peut-être 87.
87. 89, c'est Neptune.
C'est Neptune. Eh bien, en 87, on découvre cette planète avec une sonde qui est malade. En fait, elle est vieille. Il y a des plateformes qui doivent tourner pour orienter les caméras. Et les ingénieurs du JPL, du Jet Propulsion Laboratory, rivalisent d'ingéniosité pour faire orienter la sonde pour que son bras, qui ne peut plus bouger, qui a un peu d'arthrose, puisse quand même s'orienter et viser. Et puis le temps de communication est long, donc on envoie un ordre, il ne faut pas se tromper. On envoie un ordre, ça met un temps infini à rien, ça met plusieurs dizaines de minutes, quelques heures. Et tout ça, on voit le résultat après. Donc tout ça marche formidablement bien avec une sonde un peu qui commence à fatiguer, à être handicapée.
Jean-Louberto.
Oui, sur Uranus, il y avait aussi découverte qu'il y avait un champ magnétique très important. Alors, Uranus est spécial parce que son axe de rotation, il est pratiquement parallèle au plan de l'écliptique. Et le plan de l'écliptique, c'est le plan où il y a toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Et alors, on pense que c'est à l'occasion d'une collision que Uranus a été penché comme ça. Je voudrais revenir sur les anneaux d'Uranus. C'était André Braik qui avait été le champion un peu qui avait participé à la découverte des anneaux d'Uranus. Et donc, il faisait partie de l'équipe de la télévision de Voyager, qui était dirigée par Brad Smith. Et donc, il était extrêmement enthousiaste. C'était un spécialiste des anneaux de Saturne. Donc, mais après ça, il est devenu spécialiste des anneaux d'Uranus.
Oui, on a consacré, il y a quelques semaines, une émission sur Uranus que je vous invite à écouter pour avoir plus de détails sur Uranus. On parle de la découverte de Lune. C'est aussi le cas quand Voyager survole Neptune. Donc là, on est en 1989. Et Jean-Loup Berton, c'est le premier survol de Neptune de l'histoire. Et c'est le vol le plus rapproché de toute la mission Voyager.
Oui, alors sur le survol de Neptune, je dirais que le plus intéressant peut-être, c'était parce que la surface, il n'y a pas beaucoup de détails, comme le disait Philippe tout à l'heure. C'est le satellite Triton qui est quand même très, très intriguant. Qui a une particularité, c'est qu'il tourne en sens inverse de tous les autres. C'est-à-dire qu'on pense que, en fait, c'est quelque chose qui a été capté, ce qu'on appelle un objet de Kuiper. C'est-à-dire, la ceinture de Kuiper, c'est à 300 unités astronomiques, 300 fois la distance Terre-Soleil. Il y a un nuage au fond, on peut appeler ça des gros noyaux de comètes, des noyaux de grosses comètes. Et on pense que c'est un de ces objets-là qui a été capturé par Neptune. Ouais. Voilà.
Le Triton, qui est aussi un des endroits les plus froids de notre système solaire. Moins 235 degrés.
Oui, mais en fait, il y avait quand même un geyser.
Oui, et la sonde Voyager montre des taches noires étirées. Il y a une micro-atmosphère sur Triton, et ces taches noires, c'est rien d'autre que des aérosols qui sont projetés par des geysers, qu'on voit, les images sont très pixelisées, mais les scientifiques arrivent à analyser tout ça, et on voit des colonnes qui montent comme ça, et qui sont poussées par les vents, et qui déposent ces aérosols sombres sur la surface, et ça fait ces espèces de stries, c'est du volcanisme de glace.
Alors les photos de Neptune, ce ne sont pas les dernières, on a évoqué en début d'émission la photo de famille du système solaire, en février 1990.
Et puis, le 25 août 2012, Voyager 1 franchit l'héliopause, 2018 pour Voyager 2. Qu'est-ce que c'est l'héliopause ou l'héliosphère, hein? Et l'héliosphère, Philippe Hénarejos.
Alors, j'aimerais être précis là-dessus, mais je suis pas sûr d'y arriver. Disons que le Soleil, qui est notre étoile et qui, autour de laquelle tournent toutes les planètes, émet en permanence un vent de particules. Il y a des particules qui sont émises.
Principalement des protons et des électrons.
Voilà, ce sont des particules chargées, comme on dit, et qui arrivent très très vite. Et donc, toutes les planètes baignent dans ce vent de particules issu du Soleil. Pas que, mais principalement, c'est le Soleil qui est le maître à bord, en quelque sorte. Et ces particules s'étendent dans l'espace. On pourrait imaginer qu'en fait, si le Soleil était seul dans la galaxie, son vent de particules irait jusqu'à l'infini et il serait le roi de l'univers. Ce n'est pas le cas. Le Soleil est une petite étoile. Ce n'est que l'une des 200 milliards au minimum d'étoiles de la Voie lactée. Et il y a les vents cumulés de toutes les autres étoiles qui, eux, arrivent vers nous. Et en fait, le vent solaire, comme ça, il a une influence qui s'arrête à une certaine distance, cette héliopause dont vous parlez à l'instant, et où se rencontrent les vents cumulés de toute la galaxie. Et là, il se passe quelque chose, c'est que on sort de l'influence du Soleil, pas l'influence gravitationnelle, l'influence en termes de particules accélérées, comme ça, de particules chargées, et on entre progressivement, alors avec une zone tampon plus ou moins grosse, on pourra en parler, dans le domaine interstellaire qui est dominé par le vent de toute la galaxie. Donc c'est pour ça que depuis cette date-là, on dit que Voyager 1 est entré dans l'espace interstellaire. En réalité, d'un point de vue de la mécanique céleste, il est encore bien dans le système solaire et pour longtemps. Mais du point de vue de l'influence de ces particules chargées issues du Soleil d'une part et de toutes les autres étoiles d'autre part, là oui, il est en train de franchir cette transition.
Et l'héliopause, hein, c'est donc cette limite avec l'espace interstellaire. Jean-Loup Berton,
oui, je voudrais apporter un petit
correctif. C'est ça, cette frontière.
Et tout ce qu'il y est très bien, mais on peut dire. Par contre, on peut dire que cette bulle de vent solaire qui constitue l'héliosphère s'étend, ne rencontre pas, contrairement à ce que tu dis, disons, le vent des autres étoiles, il rencontre ce que l'on appelle le milieu interstellaire, qui lui est complètement indépendant des étoiles, c'est la matière qu'il y a entre les étoiles. Alors il faut donner un ordre de la densité, il y a 0,2 atomes d'hydrogène par centimètre cube, et à peu près 0,1 électrons ou protons par centimètre cube. Voilà, ça donne les ordres de grandeur. C'est pas du vide. Et donc, Rosine Lallemand, qui est la grande spécialiste de l'héliosphère, justement, avait fait des travaux d'astronomie sur le sondage de la matière interstellaire dans laquelle le Soleil se propage actuellement à 20 km par seconde. Et effectivement, elle avait pu déterminer que cette matière était légèrement ionisée. D'abord, on savait d'où ça venait. Elle était légèrement ionisée. Donc, à partir du moment où c'était légèrement ionisé, on savait que ça devait pousser l'héliosphère à l'inverse. Et donc, il devait y avoir une frontière qu'on appelait l'héliopause. Mais est-ce qu'elle était à 50 UA, à 100 unités astronomiques ou à 200? On ne savait pas. Mais
est-ce qu'aujourd'hui, on sait justement placer cette frontière?
On a traversé le fameux 25 août. Mais... Donc, c'était 100, je ne m'en rappelle plus, 120 à peu près. Ouais. Bon, mais en fait, il y a eu un débat pour savoir si on avait traversé. Alors, parce qu'il y avait des instruments qui disaient, oui, ah ben là, on voit très bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y avait les rayons cosmiques qui montaient, les rayons cosmiques extrasolaires, si je peux dire. Et puis, tout d'un coup, ça plafonnait. Alors, je dis, ça y est, on est rentré dans le milieu interstellaire. Et puis d'autres qui disaient, ah ben non, regardez, si on sort de l'héliopause, le champ magnétique doit changer brutalement. Or là, il n'y avait pas de changement du champ magnétique. Et donc, on se disait, ben non, on n'est pas sorti. Donc, en fait, les données disaient qu'on était passé, mais il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Donc, il y a eu un petit cafouillage médiatique. C'est en décembre 2012, je me rappelle très bien, à la veille de l'Assemblée générale de l'Union de géophysique, la headquarters NASA a dit, bon, alors, est-ce qu'on annonce qu'à traverser l'héliosphère, l'héliopause ou pas? Et comme il n'y avait pas de consensus, on a dit, on n'annonce rien. C'est dommage parce qu'en fait, on avait traversé.
Mais on a encore des choses à apprendre, hein, sur cette héliosphère. On aurait besoin d'une nouvelle sonde interstellaire pour mieux comprendre justement ce que c'est. Est-ce que c'est dans les projets, ça, dans les tuyaux?
Il y a des projets qui existent maintenant, comme vous l'avez compris, pour aller voir cette zone. Soit il va falloir avoir une fusée très puissante pour aller très vite, soit il va falloir être patient. Parce que, bon, il va falloir passer de l'assistance gravitationnelle avec des planètes géantes, ça aide bien pour accélérer. Mais si on a une impulsion qui est plus forte au départ, on gagne du temps, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui prend des décennies. Je sais que côté chinois, il y a un projet d'envoyer deux sondes, parce que Voyager partent dans deux sondes qui ne sont pas diamétralement opposées, c'est plutôt vers l'avant en quelque sorte. Il y a d'autres sondes, Pioneer 10 et Pioneer 11 dont on a parlé, qui elles vont dans d'autres directions mais qui ne sont plus actives, elles ne fonctionnent plus, donc elles ne font plus de mesures. Voyager 1 et 2 fonctionnent, elles envoient encore leurs données. 7 kilooctets par seconde, hein, c'est pas beaucoup. Et donc, il faudrait aussi envoyer des sondes dans d'autres directions pour voir si c'est pareil dans le sens où le Soleil avance ou dans le sens inverse à l'arrière, etc.
J'ai un avis contraire. à savoir que ce qui est intéressant, l'héliosphère, l'héliopause, c'est intéressant, mais ce qui est plus encore intéressant, c'est le milieu interstellaire vierge. C'est-à-dire, et effectivement, les sondes Voyager qui sont dedans de maintenant sont pas très très bien équipées pour étudier vraiment bien. Et donc, les sondes interstellaires qui sont prévues, alors il y a un projet américain qui est poussé très fort, mais quand est-ce qu'il va se réaliser, je ne sais pas. Ils doivent être équipés pour étudier le milieu interstellaire vierge in situ.
Et d'ici 2 ans, les Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de médecine des États-Unis vont trancher sur cette mission.
Konnichiwa, ogenki desu ka?
Namaste. Kannadigara paravagi subhashayagalu.
France Culture. La science CQFD. Natacha Triou.
Annyeonghaseyo. Salvete qui cumque est. 16h50 sur France Culture, vous venez d'entendre des sons embarqués à bord, des sons de Voyager 1 et 2, des bonjours du monde entier en 55 langues. Avec Philippe Hénarijos et Jean Louberton, on vient de parcourir le système solaire pour être à présent à 23,3 milliards de kilomètres de la Terre. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que l'odyssée des sons de Voyager touche elles aussi à leur fin?
Il y a une limitation qui n'est ni le carburant ni la capacité de la sonde à fonctionner, mais qui va être la source d'énergie. Il y a un mini générateur nucléaire qui décroît lentement, qui est à moins de la moitié aujourd'hui de sa capacité et qui pourrait, à partir de 2025, c'est pas dans longtemps, donner des signes de faiblesse. Il y a une autre limitation qui est déjà à l'œuvre, c'est la distance. Je parlais tout à l'heure d'une antenne de 3,60 m de diamètre pour envoyer ces données. Du fait de la distance et du flux très faible qu'on reçoit sur Terre, en fait, Voyager n'enregistre pas ces données à bord. C'est des bandes magnétiques, mais ça marche, hein, encore, ça marche encore très bien. Il n'enregistre pas les données à bord, mais les envoie en flux continu, c'est-à-dire que si on n'écoute pas Voyager, on n'entend pas ce qu'elle dit et on n'a pas les données. Donc il y a quand même des antennes qui sont chargées de temps en temps.
Et la taille maximum des antennes au sol, c'est 70 mètres. Et
voilà, certaines fonctionnent en même temps pour cumuler les données, pour avoir un signal plus fort, etc. Mais ça commence à être une limitation. Donc il y a un moment où on n'entendra plus Voyager et on ne l'entendra plus d'ici quelques années quand elle n'aura plus assez d'énergie pour fonctionner. C'est ça la limitation. Sinon, il reste un peu de carburant encore mais pour faire des manœuvres et des choses comme ça.
Jean-Louis Berthaud, hein, combien de temps les deux sondes pourront-elles encore tenir selon vous?
Alors franchement, comme le dit Philippe, il y a des incertitudes, ça peut être 2025, ça peut être un peu plus tard. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui me paraît extraordinaire, c'est qu'effectivement, il faut toujours que Voyager oriente son antenne vers la Terre. Mais où elle est la Terre? Eh bien, en fait, on lui a mis en mémoire où était la Terre en fonction du temps. Donc, elle sait exactement que par rapport au Soleil, par rapport aux étoiles, la Terre, elle doit être là, parce que la Terre bouge naturellement, vu de Voyager. Donc, effectivement, Voyager saura toujours où est la Terre et braquera son antenne vers la Terre et va envoyer des données. Mais est-ce qu'on sera capable de les recueillir? Je ne sais pas pendant combien de temps.
Est-ce que ces sondes, là, c'est vraiment, il vous reste quelques secondes, hein, mais est-ce que ces sondes à terme, hein, dans des millions d'années, lorsque notre Soleil sera effondré, est-ce que ces sondes seront les seules traces de nos existences?
Non, je pense qu'elles seront, mortes, quoi, comme nous.
La date de péremption du disque, a priori, avec les micrométéorites, etc., c'est estimé à 72 000 ans.
Oui. Ah bon?
Merci à vous deux de nous avoir fait voyager pendant une heure. Il est temps de retrouver Étienne Klein pour sa chronique, le pourquoi du comment.
D'où sortent les antiparticules? Au tout début des années 1930, Paul Dirac, l'un des jeunes pères fondateurs de la physique quantique, conceptualisa une nouvelle image du vide. Il le vit non pas comme un espace débarrassé de tous les objets qu'il contient, mais au contraire comme un lieu saturé de matière, un fond truffé de particules, en l'occurrence d'électrons. Un vide ultra plein, en somme, un entrepôt infini. Le but initial de ce physicien n'était pas de renverser le sens du mot « vide », mais d'écrire une équation obéissant à la fois aux règles de la physique quantique, découverte tout récemment, et à celle de la théorie de la relativité restreinte, cette unification étant la seule manière de pouvoir décrire le comportement des particules lorsque leur vitesse atteint des valeurs proches de celles de la lumière. Une année entière, il travailla d'arrache-pied, jusqu'à ce jour de 1928, où il fut convaincu d'avoir trouvé la bonne équation. Assez vite pourtant, il constata qu'elle engendrait un problème. Certaines de ses solutions correspondaient à des particules d'énergie négative. Or, si de telles particules existaient, elles auraient aussi une masse de valeur négative, impliquant que, sous l'action d'une force, elles se déplaceraient dans le sens contraire de celui des particules ordinaires, toutes dotées d'une masse positive. Or, personne n'a jamais vu de tels agissements dans le monde des particules. Mais en mai 1931, Dirac finit par comprendre que les énergies négatives sont associées à une nouvelle particule, de même masse que l'électron et de charge électrique opposée. C'est ainsi qu'il put prédire l'existence de l'antiparticule de l'électron, qu'on appellera le positron. Quelques mois plus tard, en 1932, cette prédiction sera confirmée par des observations effectuées au sein du rayonnement cosmique. Dirac démontra en outre un résultat étonnant. Un électron et un positron ne peuvent jamais apparaître qu'ensemble, toujours l'un avec l'autre, par paire, tels des jumeaux. Comment a-t-il pu prédire pareil phénomène? Justement en bouleversant la conception du vide, en en faisant un monde à la fois caché et plein à ras-bord. Permettez-moi une analogie. Le vide, au sens de Dirac, est une sorte de parking souterrain affichant complet. Les différentes places de ce parking correspondent à des énergies négatives, chacune d'elles étant occupée par un électron. Ce parking saturé d'électrons forme ce qui est appelé la mer de Dirac, mer écrit M-E-R. C'est un vide truffé de particules, sans aucune place vacante. Dans les conditions normales, ces électrons d'énergie négative ne sont pas observables directement de la surface. Tout se passe même comme s'ils n'existaient pas. Est détectable, en revanche, tout changement qui se produit à partir de cette situation de référence. Si un électron, sous l'influence d'un événement qui lui confère de l'énergie, passe d'un état d'énergie négative à un état d'énergie positive, il devient subitement observable, telle une voiture sortant d'un parking complet et dont l'apparition manifeste que ce parking n'est plus complet. Quant au trou, la place vacante, qu'il a laissé dans la mer, il devient lui aussi observable. Dans le schéma que Dirac a en tête, ce trou n'est autre que le positron, apparu en même temps que l'électron. De même qu'une voiture ne peut sortir d'un parking sans qu'une place y ait été libérée, un électron ne peut être créé sans qu'aussitôt un positron le soit aussi. En somme, pour le père de la mère de Dirac, l'idée de mère va de pair avec celle de père. À la fin de sa vie, Dirac rapporta que sa propre mère lui avait raconté cette histoire lorsqu'il était enfant. Un prêtre qui vient d'être affecté à une nouvelle paroisse décide de rendre une visite de courtoisie à tous les habitants du village. Un jour qu'il frappe à la porte d'une ferme, une mère de famille lui ouvre, puis le fait entrer dans la pièce principale. Il constate alors qu'elle est pleine de bambins, appariés deux à deux. « Combien avez-vous donc d'enfants, madame ?» demande l'homme d'église. « Nous avons quatre paires de jumeaux, mon père. »« Vous faites donc toujours des jumeaux ?»« Oh non, mon père, mon mari et moi, parfois, nous ne faisons pas d'enfants du tout. »« Ah, les physiciens !»
Merci à vous toutes et tous pour votre écoute. L'équipe de la science CQFD, c'est Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Garance Préma Agnolo, Mariam Ibrahim, Natacha Demoule. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Vous pouvez nous podcaster sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et vous abonner, chiche, au compte Twitter @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour et souvenez-vous, rien n'est établi.